et une nouvelle édition de l'économie en question pour faire suite à notre sujet de la semaine dernière. Nous avions parlé de la situation en France et rappelé à plusieurs reprises les liens d'interdépendance économique avec les autres pays de l'Union et singulièrement la zone euro. Impossible d'ignorer en effet le contexte très troublé dans lequel se trouve l'Union européenne, défiée par une crise migratoire qu'elle ne sait pas gérer, déstabilisée par le Brexit, fragilisée par les difficultés que rencontrent plusieurs de ses membres, la Grèce, le Portugal et l'Italie, aussi aux prises aujourd'hui avec la faillite de ses banques à quelques semaines d'ailleurs d'un référendum plutôt périlleux pour son gouvernement. Ceci dans un contexte de croissance trop molle, un deuxième trimestre dans l'Union qui n'a pas confirmé les bons chiffres du premier trimestre, comme en France on l'avait dit aussi, du chômage soutenu qui entrave des investissements d'envergure, etc. C'est du moins l'analyse de très nombreux observateurs, au point de voir attiser un peu partout des doutes croissants sur l'avenir de la construction européenne, sur la capacité des institutions à résister, sur le bien fondé de la poursuite d'une politique très accommodante du côté de la Banque centrale. Elle a tenu jeudi une conférence de presse qui était attendu, on va y revenir, et même hypothèse qui, je l'ai déjà dit la semaine dernière, semblait impensable il y a encore quelques mois, des doutes sur la pérennité de la monnaie unique. De quoi alimenter en tout cas bien des débats. Trois invités pour en parler dès ce matin. Menace sur la zone euro ou sur l'euro, c'est notre sujet aujourd'hui. Et nous sommes heureux d'accueillir Céline Antonin, chercheure à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, rattaché à Sciences Po. Olivier Lacoste, économiste également, ancien directeur des études d'un Confrontation Europe, c'est un think tank, et qui vient de faire paraître La fin de l'Europe, point d'interrogation tout de même, aux éditions Erol. Patrick Artus, enfin, directeur des études chez Natixis, c'est bien l'économie en question. Nous sommes en temps jusqu'à 12h30, bienvenue à tous. Revenons donc avec vous trois sur cette actualité. Nous sommes toujours un peu sur la rentrée. Les semaines précédentes ont été plus discrètes et on peut refaire le point sur la situation aujourd'hui dans l'Union européenne. J'ai rappelé les principaux points qui étaient soulevés ici et là. Et des questions, bien sûr, sur la politique monétaire. Peut-être commençons par là. Les marges de manœuvre dont dispose la Banque centrale européenne. On se souvient peut-être que Benoît Cœuré, c'était à Aix-en-Provence au mois de juillet, avait assuré que la Banque centrale était prête à faire face et agirait en cas de difficultés extrêmes. N'est-ce pas déjà la situation, en tout cas du côté de l'Italie? Jeudi 8, conférence de presse qui a suivi la réunion du Conseil des gouverneurs et Mario Draghi, président de la BCE, rassurait encore sur sa capacité à agir, mais n'a pas prolongé ce fameux programme de quantitative easing qui était peut-être attendu. On avait beaucoup dit que peut-être il fallait l'allonger un petit peu. On rappelle un rythme mensuel de rachat des dettes qui a été porté à 80 milliards d'euros par mois et qui devrait officiellement s'interrompre en mars 2017. Fallait-il prolonger ou pas, votre avis, Patrick Artus? Est-ce qu'on est surpris? Parce que beaucoup d'entre vous s'attendaient à ce que ça ne se passe pas de la même façon.
Je pense que la prise de décision par la BCE va devenir très compliquée, alors qu'elle était assez simple jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y avait un problème de croissance en Europe. Encore que, ça s'est amélioré quand même dans les périodes récentes. Mmh. Il y avait une inflation nulle. Et il y avait les difficultés des pays périphériques, l'Italie, le Portugal. Donc tout allait dans le même sens pour faire une politique très expansionniste. Si on se projette, et la BCE fait de la... C'est pas comme la Réserve fédérale, il regarde vers le futur. C'est pas une politique adaptée à la situation du mois, quoi, comme on a l'impression que les Américains font. Si on regarde l'année prochaine, il y aura nettement plus d'inflation, et c'est un effet du pétrole, le prix du pétrole remonte. Il y aura sans doute un peu moins de croissance, puisqu'il y aura un prix du pétrole plus élevé. Il y aura toujours les difficultés dont on va parler après de l'Italie, du Portugal. Mais il arrive aussi à la BCE une prise de conscience de ce qu'ils font a des effets très négatifs. Ça affaiblit les banques avec les taux d'intérêt très bas, ça affaiblit les assureurs, ça crée beaucoup de liquidités qui créent beaucoup de volatilité sur les marchés.
Ce qu'ils font donc, c'est ce rachat massif de dettes auquel se sont engagés tardivement, de l'avis de certains.
Beaucoup trop tardivement, ils auraient dû le faire en 2019, ils l'ont fait en 2015.
C'est pas tardivement, on rappelle que ça a démarré en 2015.
C'est 6 ans trop tard.
En 2009, ils auraient dû le faire.
Ils auraient dû commencer en 2009, ils l'ont fait en 2015. Mais je pense qu'ils veulent aussi arrêter ce programme. Parce que quand vous leur parlez, ils disent toutes les 3 minutes temporaire. Hein, c'est bien un message qui est clair. Donc, que vont-ils faire? C'est très incertain. Je pense qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Parce que s'ils suivent l'inflation, il faut qu'ils sortent. L'inflation remonte. S'ils suivent la croissance, il faut qu'ils continuent. S'ils suivent l'Italie, il faut qu'ils continuent. Mais ils veulent sortir. Et donc, je pense simplement qu'il faut être très prudent dans les prévisions, mais se dire que ça va être un processus de décision très compliqué et très, très incertain. Hein, ouais. Et que c'est beaucoup moins simple qu'aujourd'hui.
Oui. Céline Antonin, Olivier Lacoste, Céline Antonin.
Effectivement, donc on a quand même atteint un plafond. Alors, cette semaine, on a passé le seuil des 1000 milliards d'euros, justement, de rachat de titres.
C'est symbolique, quand même.
Ouais. Voilà, donc, alors justement, pour moi, ça pose plusieurs questions. Sur l'inflation, je suis d'accord, mais à une nuance près, c'est que, effectivement, si on regarde l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation hors prix de l'énergie, prix alimentaire, on est quand même encore à des niveaux très bas. Et en fait, en Italie ou en Espagne, on est carrément à des niveaux négatifs. Donc, c'est vrai que, à mon avis, ça pourrait justifier une poursuite, ça aurait pu justifier en tout cas une poursuite du programme, même si c'est pas forcément l'indicateur que regarde la BCE. Je crois aussi qu'ils ont vu qu'il y avait des limites à cette politique, comme vous le disiez. Pour moi, les limites, elles sont de plusieurs ordres. Donc, effectivement, d'une part, cette politique, elle a pas permis forcément une reprise forte du crédit, parce qu'il y a donc l'offre de crédit, finalement, elle était là, mais c'est la demande de crédit qui n'a pas cours. Et on voit qu'en Italie, par exemple, clairement, on a une demande de crédit qui est très faible, malgré une offre. Donc, je crois que finalement, ils ont essayé de créer des conditions financières plus avantageuses, mais que ça ne repart pas. La machine n'est pas enclenchée en zone euro. On a effectivement ce spectre d'une déflation qui s'est profilée. Malgré cette action, on est presque dans une situation pas de trappe à liquidité, mais en tout cas, on est quand même clairement, à mon avis, dans une situation qui ne fonctionne pas.
Oui, quand même, s'ils ne l'avaient pas fait. Alors, s'ils ne l'avaient pas fait.
Oui, on se dit s'il ne l'avait
moi,
pas
je
fait.
Moi, je me souviens vous avoir entendu les uns et les autres, je dis tous ceux qui passent ici dans cette émission, nous dire, mais enfin, quand est-ce que la BCE va se décider à le faire? Vous venez de le redire,
Patrick Artus. Oui, bien sûr, mais après, il y a aussi d'autres problèmes. Je pense qu'il y a un problème de créances douteuses aussi, qui est important en Italie. Enfin, disons que la situation des établissements financiers, en particulier dans les pays périphériques, est très loin d'être apurée. Ouais. On a beaucoup de créances douteuses, enfin, en Italie, en Espagne. Donc, c'est vrai que, malheureusement, l'action de la BCE à elle seule ne suffit pas. Elle a permis, sans doute, un petit peu de donner un peu plus d'air, mais bon, à mon avis, elle n'est pas suffisante et voilà. Et je pense qu'ils ont pris aussi acte du fait qu'ils ne pouvaient pas tout à la BCE.
Et que peut-être, effectivement, ils ne savent pas trop, comme nous l'a dit Patrick Artus, ce qu'il faut faire à présent. Ouais. Olivier Lacoste, pour aller un peu au-delà même.
Ouais, juste deux petits points pour souligner à quel point la prise de décision doit être difficile. Déjà, normalement, dans une politique économique et aussi la politique budgétaire, en zone euro, en Europe, elle est plutôt complètement obsédée par la maîtrise des déficits. Hein. Il y a eu des publications de l'OCDE en juin sur des études économiques à la fois portant sur zone euro et Union européenne, qui montrent clairement que à partir de 2011, il y a eu une nouvelle orientation de la politique budgétaire vers la restriction, très importante en 2011 et 2012. Donc là, il y a un moteur certainement qui manque à la croissance en zone euro. Et puis par ailleurs, en termes de processus de décision, faut quand même remarquer qu'on est passé d'un tabou absolu. Enfin, c'est l'article 123. TFUE, un traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit à la Banque centrale d'acheter directement de la dette aux États, donc à l'émission sur le marché primaire, mais elle s'interdisait de le faire également sur le marché secondaire. Et puis, pratiquement toute seule, elle a décidé il y a un an et demi, c'était progressif à partir de 2010 et massif il y a un an et demi, d'acheter des sommes véritablement colossales sur le marché secondaire. Et donc, peut-être, ça souligne un problème de gouvernance au sein de la zone euro, puisqu'on a une institution qui prend toute seule des décisions aussi massives sans que forcément le pouvoir politique soit associé. Donc ça met un peu le doigt sur des fragilités ou des déséquilibres de construction de la zone euro.
Oui, ce que vous me soulignez, d'ailleurs dans votre travail, dans l'ouvrage que vous avez fait, on est quand même au cœur là d'une discussion où on a le sentiment, effectivement, que le pas est pris sur les politiques. Ce ne sont plus eux qui ont la main.
Justement, je voulais abonder dans le sens d'Olivier Lacoste. Effectivement, on a l'impression que la BCE est de plus en plus devenue un organe politique, alors qu'ils n'ont pas de légitimité pour l'être, en fait. Et ça pose vraiment, pour moi, le problème de la légitimité politique. Je veux dire, ils ne sont pas élus, c'est pas un parlement, donc voilà.
Si l'on poursuit la comparaison avec la Fed? Rien à voir ?
Non, mais je crois que l'idée que la BCE est une institution restrictive qui s'occupe pas du plein emploi est complètement fausse. Oui. Donc on peut pas. Certes. On entend ça tous les jours. Hein, les Américains s'occupent aussi du plein emploi et pas la BCE. C'est pas vrai du tout. Enfin, la BCE, elle s'occupe sans doute plus du plein emploi que de l'inflation en réalité. Hein, donc il y a pas tellement d'asymétrie. Le problème, c'est que ça, c'est la BCE nouvelle. C'est la BCE Draghi. Quoi, hein, alors que la BCE Trichet, pour ne pas citer de nom, était un animal assez différent. Et effectivement, mais je crois qu'on l'a tous dit. Il me semble que le grand regret regret, c'est qu'on n'ait pas fait comme les Américains cette politique monétaire au moment où elle était indispensable, c'est-à-dire en gros entre 2009 et 2012, ce qu'ont fait les Américains, 2013, et qu'on la décide à un moment où elle sert plus à grand-chose, hein, parce qu'il n'y a plus de problème de liquidité. Donc remettre de la liquidité dans une économie qui est remplie de liquidité, ça crée juste des ennuis, c'est qu'on a trop de liquidité, ce qui crée plein d'instabilité financière, et ça n'a à peu près aucun effet sur l'économie. Ouais. Donc la politique de Draghi a été en gros une politique de regret, en disant on aurait dû le faire plus tôt, donc je le fais maintenant. Sauf que ça marche pas bien si on fait ça. Quoi.
Juste un mot sur la légitimité politique de la BCE, mais on l'a vu au moment de la crise grecque, en fait, quand ils avaient activé leur programme ELA, donc qui consistait à fournir des liquidités d'urgence à la Grèce, on était arrivé à la situation où la résolution de la crise n'était plus uniquement politique, c'était la BCE qui allait décider du jour au lendemain de la mise en défaut d'un État. Donc, pour moi, ça posait vraiment un problème de légitimité.
Oui, Olivier Lacoste.
Il ne s'agit pas d'instruire le procès de la BCE. Ça a été, faut quand même rappeler qu'au moment de la crise des subprimes, ça a été la seule institution qui était aux commandes, enfin, qui a réagi la première à la crise, hein, dès 2007. Donc, il y a quand même l'émergence d'une institution fédérale et c'est plutôt bien pour l'Europe. Mais le deuxième point, il y a un problème entre la doctrine de base qui était plutôt monétariste, etc., et le mode opératoire actuel dont on ne sait plus trop ce qu'il est. C'est-à-dire, ils ont fait le grand écart entre leur conception initiale et une pratique maintenant qui est complètement aux antipodes de la doctrine officielle. Donc c'est peut-être ça la difficulté, et même la difficulté de compréhension et de communication vis-à-vis des citoyens, je pense.
Autre difficulté pour aller encore plus loin, la question des taux d'intérêt. Alors on dit des taux négatifs, hein, ils sont en bas, 0,0, enfin on est... Et ce qui pose un problème évidemment aux banques, alors elles le disent très fort, elles menacent même, je ne sais pas jusqu'à dans quelle mesure elles peuvent le faire, Patrick Artus va nous le dire, puisqu'il est nacticiste, mais elles menacent même de faire payer les clients, ce qui fait bondir quand même pas mal d'observateurs. Jusqu'où peuvent-elles supporter ces taux d'intérêt si bas? Et ça va nous amener à la situation très problématique des banques italiennes que connaît bien Céline Antonin. Patrick Artus.
Juste, je peux prendre 10 secondes avant pour dire que le problème courant, quand même, essentiel de la BCE, c'est que ce qui va pas dans la zone euro ne peut pas être réparé par la politique monétaire.
Ouais, bien sûr.
Hein, moi, je pense que la chose essentielle qui ne va pas dans la zone euro, c'est qu'il n'y a plus aucune mobilité du capital entre les pays. Parce qu'on parle tous de politique budgétaire, etc. Mais le problème, c'est un problème de l'Allemagne. La politique budgétaire en France, en Espagne, au Portugal est quand même relativement expansionniste. On a des déficits publics qui sont en 3, 4, 5% du PIB. Le pays qui fait une politique budgétaire restrictive, c'est l'Allemagne. Donc c'est pas un problème de la zone euro, c'est un problème de l'Allemagne. C'est en Allemagne qu'une insuffisance de la demande. Et là, la politique monétaire n'y peut rien. Si les Allemands ont décidé d'avoir un excédent budgétaire et d'épargner comme des brutes, donc je crois aussi que la BCE comprend qu'elle ne peut pas réparer ce qui va mal par la monnaie. Quoi.
Oui, et puis ça pose aussi la question du fait d'avoir des pays aussi différents et aussi hétérogènes au sein d'une même zone monétaire. Enfin, je veux dire, un problème qui est quand même récurrent. Donc, je pense qu'il y a aussi une question de politique structurelle, d'investissement aussi, qui n'est pas menée à l'échelle européenne et qui devrait l'être malgré le plan Juncker.
Ça, je voudrais quand même, si je peux, quand vous parlez aux gens qui gèrent le plan Juncker, vous savez, c'est ce plan d'investissement européen.
Oui, enfin, un plan qui, à mon avis, a pas mal de failles.
Qui est quand même exactement ce que tout le monde suggère, de faire des investissements européens financés en commun. Ils vous expliquent qu'ils n'arrivent pas à faire parce qu'il n'y a pas assez de projets. Hein, donc, il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Non, juste, alors, attends, je réponds.
Alors, pour répondre sur les banques, les taux d'intérêt très bas et les inquiétudes des banques, évidemment.
Quand on fait une politique de taux d'intérêt très bas, c'est qu'on pense que c'est bien de favoriser les emprunteurs au détriment des prêteurs. C'est par construction. Donc la BCE, implicitement, a pris la décision qu'aujourd'hui, c'était bon pour la zone euro de taxer les prêteurs au profit des emprunteurs. La question, c'est qu'on peut faire ça sans doute aussi. On peut faire ça transitoirement. Aujourd'hui, les ménages de la zone euro, on voit l'immobilier repartir, hein, dans beaucoup de pays, y compris en France, très fortement.
Très fortement.
Donc on n'a plus tellement de problèmes de ménages emprunteurs. Les entreprises sont très profitables partout, un peu moins en Italie, mais très profitables dans les autres pays. Et par contre, les prêteurs souffrent, évidemment. Et donc, c'est pas seulement les banques, c'est les gens qui confient leur argent à un assureur, c'est les banques. Donc, il faut quand même comprendre que c'est l'essence de cette politique. On a des taux d'intérêt qui soient normalement bas, donc on taxe les prêteurs. Et ça pose une question de fond qui est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore utile de taxer les prêteurs? C'est évident que ça affaiblit les banques, donc les banques accumulent moins de fonds propres. Donc, éventuellement, si ça dure trop longtemps, elles auront du mal à prêter dans le futur.
Elles vont faire payer les clients?
Elles peuvent faire payer un peu les grosses entreprises. Hein, mais pas les clients particuliers. Non.
Céline Antonin, alors cette Italie, est-elle vraiment l'enfant malade de l'Europe actuellement?
Alors, je dirais qu'elle fait fait partie des élèves mal en point, c'est pas la seule, mais c'est vrai qu'il y a quand même 360 milliards d'euros donc de créances, de créances douteuses. Alors qu'est-ce que voilà, enfin au niveau des chiffres, on a eu les tests de résistance et on a vu que il y a eu en particulier une banque qui va très mal, donc monter des pasquis.
C'est banque historique, très ancienne, la première, je crois.
Tout à fait, et c'est vrai qu'elle, elle a besoin. Alors il y a tout un plan qui est actuellement mis en œuvre, mais pour essayer justement de sauver la banque. Et déjà, il y avait eu fin d'année 2015, on avait eu un problème avec 4 banques italiennes. Alors sachant qu'en plus, on a maintenant ce.
Mais pourquoi elles sont au bord de la faillite? Il y en a même une qui a fait.
Alors effectivement, elles ont un nombre élevé de créances douteuses, c'est-à-dire en fait des créances, donc effectivement, dont le recouvrement est compliqué. Donc il y a eu des faillites d'agents privés en fait, donc aussi bien des ménages que des entreprises, et ça se répercute forcément sur les bilans bancaires. Alors ce qui se passe, c'est que en plus, on a la mise en œuvre de l'union bancaire qui est progressive et qui fait que maintenant on passe de plus en plus du bail-out, donc c'est-à-dire la situation où c'était l'État qui venait au secours des banques, à la situation d'un bail-in où c'est finalement la banque qui fait son plan de résolution et c'est les créanciers, les actionnaires de la banque qui vont la rembourser. Et ça pose problème dans un pays comme l'Italie par exemple, puisqu'on a déjà eu ce type de la mise en œuvre de ce type de mécanisme fin 2015 avec un cas assez médiatique de suicide d'ailleurs d'un des actionnaires de la banque, donc ça avait quand même fait couler beaucoup d'encre. Et donc il y a un bras de fer actuellement entre Renzi et la commission, parce que Renzi veut quand même que ce soit l'État qui finalement aide les créanciers, parce que sinon en fait ils perdent tout, donc au-delà de ils perdent ce qu'ils ont dans la banque.
Ouais. Donc on a même assisté à une passe d'armes entre Renzi et Mario Draghi, deux Italiens, on le rappelle.
Tout à fait.
Le premier, Matteo Renzi, reprochant au second de n'avoir pas su réformer les banques quand il était à la tête du Trésor italien. On s'en rappelle, dans les années 90, Mario Draghi dirigeait le Trésor italien.
Tout à fait, mais c'est vrai que cette situation
reproché.
Qu'on appelle ce bail-in, donc ces plans de résolution, pose quand même cette question, effectivement, du fait que vous pouvez... Enfin voilà, ce sont les actionnaires et les créanciers qui vont devoir payer pour les égarements éventuels de la banque, alors sachant qu'en plus, il n'y a pas toujours séparation. Enfin, banque de dépôt, banque d'affaires, c'est un autre sujet. C'est vrai que c'est quand même problématique. Et dans le cas des banques italiennes et des épargnants italiens, ça pose de vrais soucis, on l'a vu déjà en 2015.
Et puis, autre élément encore de fragilité européenne, et ça va nous amener à notre monnaie unique, le Brexit, dont on ne voit pas encore les effets, mais dont on s'accorde à dire qu'il y en aura, et forcément négatif. D'ailleurs, je reviens encore à la BCE, qui elle-même s'y attend, mais beaucoup d'autres le disent, Olivier Lacoste.
Alors,
c'est pour vous un point crucial, là, et quand le saura-t-on?
C'est un point crucial, mais pas simplement sur la zone euro, sur l'Europe, sur le soubassement politique de la zone euro. C'est-à-dire, alors on pourra même, enfin, je vais émettre une idée un peu provocatrice, juste pour mémoire, mais le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, ça pourrait amoindrir un déséquilibre de la construction monétaire, puisque il y a l'Union européenne d'une part et la zone euro d'autre part, avec une gouvernance qui était plutôt construite pour l'Union européenne. Il y a un Parlement européen, il y a un budget sur la totalité de l'Union et pas sur la zone euro. Donc le fait qu'il y ait une zone monétaire d'une part et une union plus vaste d'autre part, ça a été un problème depuis le début. Donc le fait que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, on pourrait dire, ça contribue à résoudre ce problème. Mais bon, c'est un peu pour anecdotique. Mais en gros, le indépendamment de la négociation elle-même et du timing qu'essaye d'imposer le Royaume-Uni, en livrant leurs cartes le plus tard possible, de manière à, j'imagine, avoir le beurre et l'argent du beurre, la situation fragilise quand même l'Union européenne en tant que telle. Et puis, c'est pas le premier événement. Depuis une dizaine d'années, tous les référendums, alors certes sur avec des enjeux et des sujets différents, sont perdus par l'Europe. Il y a une méfiance croissante ou un désintérêt ou une perplexité croissante des citoyens exprimés vis-à-vis de l'Union européenne. Il risque d'avoir aussi peut-être un effet domino. Bon, pour l'instant, personne ne s'est vraiment manifesté sur le thème. Et peut-être ce qui serait là, pour le coup, assez grave, un attentisme de la part des autres Européens, pas oser relancer le projet, pas oser revendiquer l'Europe, surtout que les échéances électorales dans beaucoup de pays sont pas très favorables, alors que il y aurait peut-être besoin de se mobiliser maintenant. Quand les pères fondateurs ont lancé l'Union européenne, on était sorti de la guerre, il y avait pas si longtemps que ça, et les contentieux entre les pays étaient très vifs, et quand même ils ont eu le courage de proposer cet objectif politique, tandis que là, il faudrait peut-être un sursaut comparable, je pense.
Le contexte politique est évidemment très, très pesant, surtout ce que nous disons là, Patrick Artus.
Oui, moi je crois que pour résumer le problème de la zone euro, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Je crois qu'effectivement, ce que vient de dire Olivier est très important. Ce qui compte, c'est la zone euro. Un pays de l'UE pas dans la zone euro est soumis à des contraintes beaucoup plus faibles. Il n'y a aucune raison, par exemple, qu'un pays de l'UE pas dans la zone euro coordonne son budget ou coordonne ses politiques salariales. Il a sa monnaie, quoi. Donc c'est vraiment la zone euro, la chose qui est clé. Et dans la zone euro, on a comme une situation aujourd'hui qui est extrêmement intéressante, c'est que, un, elle marche extrêmement mal. On le disait très brièvement tout à l'heure. Ce qui fait l'intérêt, on fait une union monétaire pour pouvoir faire circuler l'épargne. Donc pouvoir prendre l'épargne là où il y en a, pour investir là où c'est utile.
Or, vous nous l'avez expliqué.
Alors ça, c'est fini.
Avec l'Allemagne, c'est fini.
Depuis 2008, c'est totalement terminé. Il n'y a plus aucune circulation de l'épargne entre les pays de la zone euro, à part le plan Juncker. Et donc, on a perdu l'avantage fondamental de l'union monétaire. Donc il nous reste que les inconvénients, qui est que c'est des pays hétérogènes qui ont la même monnaie, le même taux de change, les mêmes taux d'intérêt. Donc on a perdu l'avantage, faut quand même comprendre ça. Donc aujourd'hui, la zone euro, c'est un handicap économique pour les pays membres. Tant qu'on n'a pas restauré, ce qui fait l'utilité, c'est la capacité d'investir là où c'est le plus utile. Et deuxième point, on peut pas sortir de l'euro. Alors c'est un point qui est extrêmement peu connu et sur lequel j'essaie de faire un peu de publicité. Les pays ont des dettes extérieures en euros gigantesques. La France, alors c'est pas la dette nette, c'est la dette brute. C'est-à-dire combien d'actifs de tout type en euros avons-nous vendu au reste du monde? La réponse, c'est 320% du PIB. L'État français a vendu les deux tiers de sa dette publique à des non-résidents.
En euros?
C'est des euros. Donc si vous êtes un fonds de pension allemand, américain ou japonais, vous avez acheté de la dette de l'État français en euros. Si la France sort de l'euro et dévalue, ça sera toujours des euros, c'est des euros, et l'État français devra rembourser une dette en euros alors que sa monnaie est devenue beaucoup plus faible. Donc l'État français fera faillite. Et c'est vrai pour les banques, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour tout le monde. Donc, un, ça marche affreusement mal, mais deux, personne ne sortira jamais de la zone euro.
C'était Patrick Artus, Céline Antonin.
Oui, alors après, il y a des questions juridiques sur la redénomination des dettes, etc.
Ça s'appelle un défaut.
Oui, ça s'appelle un défaut, je suis d'accord.
Donc, si vous voulez faire défaut à tout le monde, on peut, effectivement.
Disons que, enfin, moi, je le souhaite pas, mais je veux dire, je pense que ça fait partie des choses qui peuvent arriver. En tout cas, dans certains pays, dans le cas de certains pays, on l'a envisagé. Pour la Grèce, on l'a envisagé, par exemple. Donc, non, mais je crois que la situation, enfin, ce à quoi on arrive, finalement, que ce soit au sein de l'Union européenne ou de la zone euro, c'est une union à plusieurs vitesses, en fait, avec effectivement un cœur qui aurait des politiques monétaire, budgétaire très intégré. Ce que, en fait, on voit partiellement en zone euro, puisqu'on voit bien que c'est inabouti. On a une politique monétaire commune, mais les politiques budgétaires ne sont pas quand même complètement convergentes. Ça, je pense qu'on est d'accord pour le dire. On voit sur la rigueur de l'Allemagne, on voit que d'autres pays ont laissé filer les déficits. Après, on aurait un autre cercle qui serait dans l'Union européenne, donc, mais sans avoir justement cette contrainte. Et puis, un troisième cercle. Mais je crois que là où, effectivement, il faut redéfinir le projet européen, c'est qu'on s'éloigne quand même largement de l'idée initiale, où l'idée était quand même d'aller vers le cœur, effectivement, et que chacun adopte à terme l'euro, parce que c'était quand même ça à la base. Et là, ça va plus être ça. Donc, on va vers une désagrégation progressive. Et je pense que du coup, il est vraiment urgent de redéfinir le projet européen dans ces termes.
Olivier Lacoste,
enfin. Ça me fait du mal d'entendre un pronostic comme ça. On va vers une désagrégation progressive. Enfin, c'est bien, malgré le titre de mon livre, mais il y a un point d'interrogation.
Oui, vous avez quand même parlé de la fin de l'Europe, voilà.
Juste deux petites remarques.
Et vous avez ajouté des rangs soutiens, je le dis, parce que c'est un livre très actuel, l'Union au défi du Brexit. C'est quand même un point central.
Oui, mais faudrait rajouter au défi du Brexit, des référendums de 2005, du référendum de 2008. C'est pas le Brexit.
Et peut-être de la Grèce auparavant.
Donc, deux points. Le premier point, certes, l'euro a présente des défauts de fabrication et je sais pas, on a peut-être pas le temps, mais c'est construit essentiellement sur des règles qui s'appliquent d'ailleurs, qui sont focalisées sur les finances publiques. Et puis, ça n'a pas été assorti de politique budgétaire, transfert. Le budget européen est vraiment, très faible. C'est même pas un pourcent du PIB de l'Union.
Il n'y a
pas de politique de change vraiment déclarée, etc. Bon. Donc on a des défauts de construction. Cela dit, deuxième temps, ça ne suffit pas pour plaider la sortie de l'euro, parce qu'il y aurait des inconvénients, donc des inconvénients sur la dette, comme l'a dit Patrick Artus, mais aussi il faudrait réorganiser la gestion des moyens de paiement. On aurait à nouveau des problèmes de volatilité monétaire perturbant, faussant le marché intérieur. Comment avoir un marché unique avec des monnaies faisant du yo-yo entre elles? Donc faut pas, c'est l'examen des défauts de la situation actuelle ne suffit pas à dire jetons le bébé avec l'eau du bain et retournons comme avant, etc. Il y a des contraintes qui s'imposeraient qui seraient peut-être même bien pires que dans la situation actuelle.
Non, mais je veux pas que vous m'épreniez sur ce que je dis. Moi, je ne plaide pas du tout pour une désagrégation de la zone euro ou une sortie des pays. Mais je dis qu'il faut vraiment clairement, à mon avis, la redéfinir parce qu'elle va mal, cette zone euro, et cette union va mal. Et on le voit sur un certain nombre de politiques, pas uniquement les politiques économiques, mais même en matière migratoire. Enfin, on voit quand même la manière dont la crise a été gérée par Angela Merkel de façon assez unilatérale, même avec la Turquie. Je veux dire, ça pose quand même d'énormes questions, à mon avis, pour redéfinir ce qui fait vraiment partie de la souveraineté des États, ce qui fait vraiment partie des politiques européennes. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment eu cette réflexion. Enfin, en tout cas, on l'a vu, la cacophonie actuelle sur un certain nombre de politiques, l'absence, à mon avis, de projets européens réels comme il y a pu en avoir sur des politiques d'éducation, sur des politiques d'innovation. Si on prend un pays comme l'Italie, on est quand même à des niveaux de recherche et développement très faibles, des politiques d'innovation inexistantes, c'est quand même dommage. Je veux dire, ça devrait être ça l'Europe, ça devait être ça l'Europe. Donc moi, et
l'Italie souffre d'un grand manque d'investissement dans ces domaines-là, moi, depuis très nombreuses années.
Voilà, mais je plaide pour que l'Europe soit ce second souffle et soit justement l'ensemble de ses politiques et pas uniquement quelques contraintes budgétaires fixer ça et là, et une politique monétaire commune. C'est pas que ça pour moi l'Europe. Et malheureusement, c'est devenu un peu que ça.
Et ça reste possible.
On se rejoint un petit peu. Dans mon livre, moi je fais des propositions, notamment de donner davantage de pouvoir au Parlement européen, notamment l'initiative des textes qu'il n'a pas. C'est un monopole de la Commission. Peut-être ça, les citoyens ne le savent pas assez. Le Parlement n'a pas la possibilité de mettre un papier sur la table de manière à ce que ça devienne ensuite un règlement ou une directive. Donc, lui donner par exemple du pouvoir en matière de recettes communautaires. Et donc, il y a des choses à faire en faveur de l'Europe, effectivement. Oui.
Allez, un petit mot d'encouragement, Patrick
Artus. Non, moi, je pense qu'il y aura absolument, il y aura pas de grand soir de l'Europe. C'est-à-dire les grands projets européens, le fédéralisme, ça se fera pas comme ça. Donc, c'est même pas la peine d'en parler, ça sert à rien. Je crois que ce qu'il faut, c'est avoir une approche pragmatique, qui est celle de la Commission ou des gens de bonne volonté, qui est de faire des petits pas. Et il se fait des petits pas. On a fait l'ESM, c'est 1000 milliards d'euros pour venir au secours des pays qui auraient des ennuis. On a fait le plan Juncker. Et on a bien avancé sur l'harmonisation des bases de l'impôt sur les sociétés. On est en train de bien avancer sur un système d'indemnisation européenne du chômage. Donc je pense qu'il faut plaider pour une politique de petits pas, parce que les grands pas seront rejetés par les opinions des pays du Nord. Donc il faut faire des petits pas fédéralistes. C'est la seule façon, il me semble, d'avancer concrètement.
Eh bien, merci à tous les trois pour votre éclairage. Et maintenant, je vous avais demandé de venir avec un chiffre, on va voir. Votre chiffre, Céline Antonin, pour conclure
alors,
cette émission.
Alors, mon chiffre, c'est le taux de croissance du PIB de la zone euro au deuxième trimestre. Alors, c'est pas très glamour, mais donc c'est 0,3% donc de ce taux de croissance. Et en fait, on a des taux assez disparates entre pays. Donc, on a des pays comme la France ou l'Italie qui sont à zéro au deuxième trimestre, qui est quand même donc à l'arrêt. Et puis, on a au contraire des pays comme l'Espagne qui sont à 0,8 ou l'Allemagne qui est à 0,4. Donc, on a clairement une là aussi en termes de croissance, on a une divergence entre les pays.
Oui. Et puis, une mauvaise surprise, cette rechute au deuxième trimestre, alors que le premier était tout à fait encourageant. On en a parlé effectivement la semaine dernière. Merci Olivier Lacoste. Le chiffre.
Alors mon chiffre, il est un peu par défaut. C'est 160 milliards d'euros, c'est à savoir les recettes de TVA non perçues dans l'Union européenne en 2014. C'est un chiffre qui a été publié, enfin communiqué il y a quelques jours. Je dis c'est un chiffre par défaut parce que moi je cherchais plutôt l'évaporation fiscale au titre de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, qui est d'actualité. Donc j'ai pas trouvé de chiffre. Peut-être ça existe, mais peut-être les estimations sont impossibles à faire. Et je rebondis sur ce que disait Patrick Artus un instant. Là, il y a eu une espèce d'initiative de la Commission à propos d'une grande entreprise que je ne vais pas nommer, mais qui est en train de relancer justement le projet ACIS de base harmonisée, consolidée de l'IS, et ça, c'est bien.
Voilà. Merci Olivier Lacoste. Enfin, le dernier chiffre, celui de Patrick Artus.
Oui, c'est la taille du bilan de la Banque du Japon. Donc, c'est 85% du PIB. À titre de comparaison, la BCE, c'est 20%. Parce que la Banque du Japon est en train de transférer progressivement sur son bilan toute la dette publique du Japon, ce qui évidemment est une solution extrêmement robuste pour éviter qu'il y ait une crise de la dette publique. Donc la question pour les économistes, c'est à quel moment une banque centrale doit-elle arrêter d'augmenter la taille de son bilan et de créer de la monnaie ?
Eh bien, nous revoilà aux difficultés qui attendent la BCE. Et vous reviendrez nous en parler tous les trois. Céline Antonin, Olivier Lacoste, donc, qui fait paraître La fin de l'Europe avec un point d'interrogation. C'est aux éditions Erol, et Patrick Artus, directeur des études chez Natixis. Merci encore à vous trois. Et à notre petite équipe dirigée par Laetitia Koya qui réalise l'émission. Jason Taous qui l'accompagne ce matin. Et bien sûr, Laurence Genepin, la préparation, la documentation. Très bonne journée à tous, à samedi prochain.